Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Micro Rebelle dans le cadre de notre chronique Vive la Commune, chaque semaine jusque fin mai à l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris. Aujourd'hui, sixième opus et nous nous intéressons à la question de l'autogestion des entreprises. Nous vous proposons les thématiques suivantes. Premièrement, la réquisition des entreprises. Deuxièmement, l'exemple des ateliers du Louvre. Troisièmement, la réquisition des ateliers des grands monopoleurs. Quatrièmement, l'exemple de l'imprimerie nationale. Et enfin, cinquièmement, quelques enseignements pour nos luttes du XXIe siècle. Pour cette émission, nous nous appuyons sur les sources suivantes. Le numéro spécial de Les Utopiques de l'Union syndicale solidaire, numéro intitulé La Commune de Paris, mémoire, horizon, et notamment l'article de André-Clément Découfflé, article titré Réquisition, autogestion. Ensuite, le dossier de Alternatives libertaires, intitulé « L'espoir meurtri de la Commune de Paris ». Et enfin, le livre « La Commune au jour le jour », qui compile les textes officiels de la Commune de Paris, textes rassemblés par Patrick Le Tréhonda et Christian Mailleux. Et on va justement commencer par évoquer la réquisition des entreprises au travers d'un texte officiel. Il s'agit du décret du 16 avril 1871, connu sous le nom de décret des biens vacants.
Considérant qu'une quantité d'ateliers ont été abandonnés par ceux qui les dirigeaient afin d'échapper aux obligations civiques et sans tenir compte des intérêts des travailleurs, considérant que par suite de ce lâche abandon, de nombreux travaux essentiels à la vie communale se trouvent interrompus, l'existence des travailleurs compromise, la Commune de Paris décrète. Les chambres syndicales ouvrières sont convoquées à l'effet d'instituer une commission d'enquête ayant pour but, premièrement, de dresser une statistique des ateliers abandonnés, ainsi qu'un inventaire exact de l'état dans lequel ils se trouvent et des instruments de travail qu'ils renferment. Deuxièmement, de présenter un rapport établissant les conditions pratiques de la prompte mise en exploitation de ces ateliers, non plus par les déserteurs qui les ont abandonnés, mais par l'association coopérative des travailleurs qui y étaient employés. Troisièmement, d'élaborer un projet de constitution de ces sociétés coopératives ouvrières. Quatrièmement, de constituer un jury arbitral qui devra statuer au retour des dix patrons sur les conditions de la cession définitive des ateliers aux sociétés ouvrières et sur la quotité de l'indemnité qu'auront à payer les sociétés aux patrons. Cette commission d'enquête devra adresser son rapport à la Commission communale du travail et de l'échange, qui sera tenue de présenter à la commune, dans le plus bref délai, le projet de décret donnant satisfaction aux intérêts de la commune et des travailleurs.
On le voit, ce décret comporte essentiellement des mesures préparatoires à une réquisition ultérieure des seuls ateliers abandonnés, institution d'une commission d'enquête chargée de dresser une statistique de ces ateliers, ainsi qu'un inventaire exact de l'état dans lequel ils se trouvent et des instruments de travail qu'ils renferment, définition des conditions de leur prompte mise en exploitation par des sociétés coopératives ouvrières constituées à cet effet lorsqu'elles ne préexisteront pas dans telle ou telle branche d'industrie. Un jury arbitral statuera au retour des patrons sur les conditions de la cession définitive des ateliers aux sociétés ouvrières et sur la quotité de l'indemnité qu'auront à payer les sociétés aux patrons. Et concernant les suites de ce décret, qu'en est-il ?
Les résultats effectifs du décret du 16 avril sont malaisés à évaluer dans l'incertitude des sources. L'historien Jacques Rougerie recense une dizaine d'ateliers confisqués, ceux d'abord qui intéressaient la défense militaire, la réparation d'armes, la fabrication de cartouches et d'obus.
On va maintenant prendre appui sur l'une de ces entreprises réquisitionnées.
L'un de ces ateliers, celui du Louvre, est doté dans les premiers jours de mai d'une organisation que la terminologie moderne qualifierait d'autogestion. Organisation dont le règlement est soumis à l'approbation de la Commune de Paris par les ouvriers de l'atelier du Louvre et publié au journal officiel du 21 mai. Placé sous la direction d'un délégué près de la commune, lui-même nommé par les ouvriers réunis et révocable chaque fois qu'il sera convaincu d'avoir failli à son devoir, il est administré par un conseil ouvrier. Ce conseil ouvrier est composé du délégué à la direction, du chef d'atelier, des chefs de banc, ces chefs étant eux aussi élus et révocables par l'Assemblée des ouvriers, et d'un ouvrier par chaque banc nommé à l'élection. Le conseil se réunit quotidiennement pour délibérer sur les opérations du lendemain ainsi que sur les rapports et les propositions faites par l'un ou l'autre de ses membres. Il est à la fois, au terme du règlement, conseil de direction et conseil de surveillance, exerçant de ce dernier point de vue une fonction spécifiquement révolutionnaire. Dans le but de sauvegarder les intérêts de la commune, les délégués formant conseil de surveillance, précise l'article 11, auront droit de prendre connaissance de toutes les opérations intérieures et extérieures et, sur leur demande, les livres devront leur être présentés chaque fois qu'ils le jugeront nécessaire. L'embauche et le licenciement des ouvriers sont soumis à la décision du conseil. Le règlement fixe aussi la durée de la journée de travail, qui est de 10 heures, et les appointements des délégués et le prix de la journée des ouvriers.
On le voit, la place des ouvriers dans les délibérations et dans l'élection des délégués est réelle et s'apparente effectivement à ce qu'aujourd'hui on appelle l'autogestion. Cependant, dès le 10 mai, soit 7 jours après l'application du règlement d'autogestion aux ateliers du Louvre, un communard indique que les ateliers du Louvre sont, je cite, « à leur troisième directeur élu et ils ne font rien ». Il y a plus significatif. Les entreprises, de quelque importance, ne sont guère touchées par le décret de réquisition.
Plusieurs communards, par exemple Cluseret le 23 avril ou encore Chalin le 4 mai, ne sont pas écoutés quand ils évoquent devant l'Assemblée de la Commune la réquisition des grands ateliers Kail. Je propose, avait en vain déclaré Chalin, que l'on prenne les ateliers Kail pour fabriquer tout ce dont nous avons besoin. Il y a plusieurs raisons à la réserve du pouvoir communaliste à l'égard de ces ateliers. La première de ces raisons, c'est que le milieu ouvrier aux usines Kail était neuf, peu intégré encore aux traditions révolutionnaires parisiennes. La deuxième raison était que l'action des rares militants internationaux de l'usine dont Chalin faisait partie était encore dispersée. Et enfin, troisième raison, l'habileté de la direction de Kail qui accepte que l'usine travaille quelque peu pour le compte de la commune.
Ainsi, le décret de réquisition du 16 avril est bien l'œuvre de militants ouvriers traditionnels employés dans la petite industrie. Ils ne visent que les petits patrons qu'un réflexe de sauvegarde a fait fuir à Versailles avec leur argent. Ils ne visent pas les grandes entreprises, ils ne visent pas les grands patrons que l'on appelait les grands monopoleurs.
Le 4 mai, Vésigné disposera cependant sur le bureau de l'Assemblée un de ses projets fracassants dont il était ça et là l'auteur, celui d'un décret de réquisition des ateliers des grands monopoleurs. Décret décidant, premièrement, la réquisition après inventaire et indemnité ultérieure fixée par des experts de tous les grands ateliers des monopoleurs de leurs outils, machines, matières premières, agencements de locaux, etc. Deuxièmement, la cession provisoire de ces ateliers aux associations ouvrières qui en feront la demande. Troisièmement, l'adjudication des fournitures de la commune à ces associations ouvrières. Et quatrièmement, l'ouverture d'un crédit nécessaire à ces associations. Le projet ne sera même pas discuté, peut-être par la maladresse commise par Vésigné lui-même, en le proposant au beau milieu d'un débat animé sur une autre question, celle de l'attribution aux associations ouvrières de tailleurs des marchés d'habillement de la Garde nationale.
Un dernier exemple maintenant, toujours pour évoquer la question de l'autogestion des entreprises sous la commune. C'est l'exemple de l'Imprimerie nationale, évoqué par Prosper Olivier Ligasaraille. Ligasaraï est un journaliste socialiste républicain qui a rallié la commune dès le premier jour. Il en a raconté les 72 jours dans un livre témoignage « Histoire de la commune de 1871 ». Voici son évocation de l'Imprimerie nationale.
Tout le personnel fut conservé, à l'exception du directeur, du sous-directeur, du sous-prot, du chef des travaux qui était cordialement détesté pour ses brutalités et ses injustices. Ils firent courir le bruit que le comité central n'avait pas d'argent et que les ouvriers ne seraient pas payés. À la fin de mars, sur l'injonction de Versailles, tous les employés et les chefs de service, à l'exception d'un très petit nombre, abandonnèrent l'imprimerie, après avoir touché leurs appointements. Le nouveau directeur en profita pour faire nommer les chefs d'atelier par les ouvriers. Les places de conducteurs de presse furent mises au concours. L'administration en charge de l'affichage, mettant des entraves à l'affichage des décrets et proclamations, De Bock conseilla aux ouvriers afficheurs de s'associer. Ils le firent, leur salaire s'accrut de 25% et l'imprimerie réalisa une économie de 200 francs par jour. Les gros traitements furent réduits de beaucoup, ceux des petits employés et des ouvriers augmentés.
Voilà, en guise de conclusion, conclusion évidemment provisoire, quels aspects peut-on retenir de ces questions d'autogestion des entreprises sous la commune, pour nos luttes actuelles, pour nos perspectives ? La question centrale, c'est bien sûr la question de la propriété. Propriété des entreprises, propriété des moyens de production. Une question sur laquelle, on l'a vu, la commune a été quelque peu timide. Par exemple, un jury arbitral devait statuer sur la cession des ateliers aux associations ouvrières et sur le dédommagement à verser aux patrons. Cette question de la propriété des moyens de production est centrale dans la perspective d'une société débarrassée du capitalisme. Les moyens de production et d'échange sont une propriété sociale, un bien commun de toute la société. Ils doivent être placés sous la responsabilité des travailleurs qui les mettent en œuvre dans le cadre de leur activité de production et sous la responsabilité des usagers. On le voit, cette perspective nous éloigne tout à fait d'une propriété privée aux seules mains des patrons et des actionnaires. Voilà, cette sixième émission « Vive la commune » se termine. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un septième opus. Dans l'attente, bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien, bye bye.